Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
J'aimerais vous inviter, comme au cours des 6 dernières semaines, à ouvrir vos Bibles à Matthieu, chapitre 6 et versets 9 à 13, alors que nous aborderons la suite de notre série sur la prière des disciples, plus connue de la plupart d'entre vous, comme le Notre Père. Dans notre étude au travers du livre de Matthieu, nous sommes parvenus à cette partie particulière, qui se déroule verset après verset, paragraphe après paragraphe, et qui, bien sûr, est un passage très familier, celui avec lequel tous ceux qui sont familiers avec l'Église ou qui ont été élevés à l'Église doivent connaître. Malgré le fait que je l'ai bien connu depuis mon enfance, j'ai découvert de nouvelles choses, des vérités et des pensées que je n'ai jamais perçues, ici ou ailleurs dans la Bible. Cela a ouvert beaucoup, beaucoup de nouvelles dimensions à ma propre compréhension. J'aurais souhaité pouvoir partager avec vous un dixième de ce que j'ai découvert, mais le temps ne me le permettra pas. Donc, je vais classer mes notes et les ressortir plus tard, quand je pourrai les ajouter à un autre message dans quelques mois ou quelques années. Mais j'ai été tellement enrichi par cette étude. Permettez-moi de vous lire à nouveau les versets 9 à 13, afin que vous ayez la prière à l'esprit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pendant 6 semaines, nous avons appris à prier. Cette prière se trouve dans l'Évangile de Luc, en réponse à la question des disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier. Je crois que c'est une norme pour la prière. Je crois que c'est un modèle. C'est le cadre qui nous donne un aperçu de la façon dont nous devons prier. Quand Dieu a dit à Moïse de construire un tabernacle dans Exode 35, il lui a donné un modèle, et je crois que lorsque Jésus nous dit de prier ici, il nous donne ce modèle. Vous ne construisez pas une maison sans plan. Vous ne montez pas un modèle sans dessin. Je crois que c'est le plan de la prière. C'est le modèle, le schéma, la structure. Je ne crois vraiment pas que nous soyons liés aux mots employés. Je ne pense pas que l'idée soit de réciter les mots, bien que les mots soient vrais, beaux et bons, mais je pense que c'est la structure sur laquelle nous pouvons construire notre vie de prière. Gardez à l'esprit que l'idée principale que nous avons observée dans cette prière est qu'elle se concentre sur Dieu et non sur nous. Jésus, dans Matthieu 5, 6 et 7, est confronté au faux système religieux des pharisiens et des scribes. Leur prière, entre autres choses, était inadaptée. Ainsi, au chapitre 6, commençant au verset 5, il commence à attaquer leur façon de prier, et il la critique essentiellement du fait qu'elle est auto-centrée. Il priait devant les hommes pour que les hommes puissent voir à quel point ils étaient pieux. Il ne voulait rien avoir à faire avec la prière privée. Il participait à la prière publique qui les exposait. Il cherchait à satisfaire leur propre volonté, leur propre désir égoïste, et ils se livrèrent donc à une répétition, sans cesse, un harcèlement constant de Dieu, qui caractérisait les païens qui essayaient d'apaiser ou de forcer leur Dieu à répondre simplement à cause de leur exhortation constante. Leur prière était caractérisée par une sorte d'égoïsme qui dit « Dieu, tu devrais écouter, parce que j'ai des informations intéressantes que tu pourrais utiliser », comme si Dieu n'était pas déjà au courant, car il est omniscient. Donc leur prière était égocentrique. Comme Jacques l'a dit, ils demandaient pour la consommation de leur propre convoitise. Alors Jésus détourne tout cela. Il dit, lorsque vous priez, vos prières doivent être centrées sur Dieu. Nous avons appris que la manière appropriée de prier consiste à commencer par une concentration sur Dieu. L'introduction, notre Père qui est aux cieux, postule Dieu. Elle affirme Dieu, non seulement que Dieu existe, mais que Dieu est aimant, que Dieu est un Père, et que Dieu, en tant que Père aimant, a des désirs aimants pour ses enfants, qu'il peut rencontrer, parce qu'il est un Père au paradis, ce qui signifie que les ressources éternelles sont à sa disposition pour l'octroi en faveur de ses enfants. Alors, nous arrivons devant un Dieu saint, un Dieu tout-puissant, un Dieu juste, un Dieu souverain, devant le grand Dieu de l'univers, et pourtant il est un Père aimant. Nous ne venons donc pas dans la peur, mais dans la joie. Nous ne nous demandons pas s'il peut fournir ce dont nous avons besoin, mais en sachant qu'il est au paradis. Il a les ressources de l'éternité à sa disposition. Ensuite, alors que nous nous sommes présentés dans sa présence, nous commençons à nous inquiéter de lui. Ainsi, les trois premières requêtes sont « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous sommes obligés de voir cela avant de prier. Donne-nous, pardonne-nous, guide-nous. D'abord, nous devons nous occuper de Dieu. La prière commence avec lui, avec son saint nom, avec son règne et avec sa volonté. Nous avons vu, en suivant tous les éléments de la prière, qu'il se concentre sur Dieu, même les demandes qui nous concernent. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, et ne nous soumets pas à la tentation. Tout dépend vraiment de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui doit donner, c'est lui qui doit pardonner, et c'est lui seul qui peut nous conduire selon sa volonté. Toute prière se concentre sur lui. Nous avons vu, par exemple, notre Père qui est aux cieux. C'est la paternité de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, c'est la priorité de Dieu. Ton règne vienne, le programme de Dieu. Ta volonté soit faite, le plan de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la provision de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Le pardon de Dieu. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La protection de Dieu, et enfin la prééminence de Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Alors cette prière est avant tout un acte de louange. C'est un engagement dans le processus de la sanctification. La prière ne va pas changer Dieu. La prière est faite pour nous changer. C'est très important. Maintenant, pour notre étude ce matin, nous revenons à la pétition. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la quatrième étape de la troisième requête. La première requête, que ton nom soit sanctifié. La seconde requête, que ton règne vienne. Et la troisième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est essentiellement le fondement de nos prières. Nous ne voulons jamais usurper sa volonté. Nous ne voulons jamais changer sa volonté, forcer sa volonté à se conformer à nos désirs. Ami, car Michaël a dit, « Et dois-je prier pour changer ta volonté, mon Père, jusqu'à ce qu'elle soit selon la mienne ? Mais non, Seigneur, cela ne peut pas être. Plutôt que je te prie de changer ma volonté humaine pour qu'elle corresponde à la tienne. » Elle avait raison. La prière n'est pas de plier Dieu à ma volonté, mais de plier ma volonté à Dieu. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sa volonté est déjà faite au paradis, n'est-ce pas? Les anges font sa volonté. En fait, cette semaine, j'ai eu une pensée intéressante. J'ai pensé chercher dans la Bible pour voir comment les anges font la volonté de Dieu. Parce que si nous voulons savoir comment le faire sur terre, nous devons savoir comment elle est faite au paradis. Sans nommer tous les versets, parce que ce serait un sermon en soi. J'ai trouvé environ 8 mots qui décrivent comment les anges font la volonté de Dieu. Tout d'abord, sans hésiter ou sans relâche. Il n'y a jamais de discussion. Ce n'est pas nécessaire, comme sur la terre. Le Seigneur nous appelle et doit insister. Et peut-être, nous nous déplaçons tôt ou tard, mais au paradis. C'est un engagement inébranlable de faire sa volonté. Un autre mot qui caractérise les anges faisant la volonté de Dieu. Et complètement, il n'y a pas d'autre solution de rechange. Il n'y a pas de lacune. Il n'y a pas d'omission. Un autre mot que j'ai trouvé était « sincèrement ». Ils sont désireux. Ils semblent être debout en attendant le prochain commandement, afin qu'ils puissent se dépêcher de tout accomplir. Je suppose que cela m'a amené au mot « volontiers ». Vous savez, combien de volontés il y a au paradis ? Une. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y en a qu'une. Il y en avait deux autrefois, mais la seconde a été expulsée. Il n'y en a qu'une. Les anges la font volontiers parce que c'est la seule volonté qui existe. Un autre mot qui caractérise la fonction des anges est fervent. Ils sont très agressifs en faisant la volonté de Dieu. Ensuite, le mot naturellement et puis le mot rapidement. et enfin le mot « constamment ». Je suppose que tout cela pourrait être résumé dans le verset 20 du psaume 103, qui dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants force, et qui exécutez ses ordres. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » signifie que dans la terre, elle doit être faite sans hésitation, complètement, sincèrement, volontairement, de manière fervente, naturellement, rapidement et constamment. C'est comme cela que les anges le font au paradis. Vous dites, c'est bon, je suis engagé à faire cela. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie, comme nous l'avons vu la dernière fois, le désir de votre cœur et de soutenir les causes de Dieu avant toute autre chose. Permettez-moi de vous donner une petite déclaration que vous pourriez souligner pour indiquer votre façon de penser. Je pense que c'est une déclaration clé. La mort de soi est le début d'une vraie vie de prière. Quand nous acceptons de mourir à nous-mêmes, la vraie prière peut commencer. Parce que quand le moi est vivant, il dominera, et ce ne sera pas la prière. La vraie prière est dominée par son nom, son règne et sa volonté, et non la nôtre. Ainsi David a dit « Je suis heureux de faire ta volonté, mon Dieu. » Et Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Son nom est sanctifié dans le ciel. Son royaume est venu au paradis. Il règne, mais pas sur la terre. Sa volonté est faite au paradis, et elle devrait être faite ici. La semaine dernière, nous avons examiné l'aspect négatif de cela. Dire dans notre prière « Que ta volonté soit faite » a une connotation négative, et j'ai souligné trois choses que cela ne veut pas dire. Premièrement, cela ne signifie pas un ressentiment amer. Cela ne signifie pas que vous dites « Oh, que ta volonté soit faite, je ne peux pas la combattre, tu es trop grand, j'abandonne. » Comme si Dieu était une sorte de rabat-joie cosmique qui dit « Il n'y en a qu'un qui s'amuse, attrape-le. » Ce Dieu s'engage à pleuvoir sur le cortège de tous. Il y a un ressentiment amer que l'inévitable, le destin, va prendre le dessus de toute façon. Deuxièmement, que ta volonté soit faite ne signifie pas une résignation passive. C'est une sorte d'indifférence qui dit « Ce qui doit arriver arrivera ». Il y avait une chanson appelée « Que sera, sera, que sera, sera, ce qui doit arriver arrivera ». C'est comme cela. Je ne peux pas le combattre. C'est ma démission passive. Je pense que le ressentiment amer est basé sur un manque de connaissance. Mais la résignation passive est construite sur un manque de foi. Vous ne croyez pas vraiment que Dieu puisse changer les choses ou faire ce que vous lui demandez, même si c'est selon sa volonté. Troisièmement, le négatif qui se glisse parfois dans ce que j'ai appelé la réservation théologique. Certaines personnes disent simplement « Que ta volonté soit faite » et ils le déposent dans leur boîte théologique. Écoutez, si votre théologie a causé un manque de persévérance dans la prière, vous avez une mauvaise théologie. Un collègue m'a dit une fois « Je crois vraiment que même votre péché est la volonté de Dieu. Dieu est réellement impliqué dans le fait de vous faire pécher après tout. Il est souverain. Il avait une vision tellement dominante de la souveraineté de Dieu qu'il tenait Dieu responsable directement pour tout. La réservation théologique a tué la vie de beaucoup de prières. Si vous êtes arrivé à un point où votre théologie et votre point de vue sur Dieu vous rendent indifférent à la prière, votre théologie n'est pas biblique. Maintenant, Dieu est souverain, et voir la façon dont votre vie de prière entre dans ce contexte est un mystère très difficile. Je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est une question d'obéissance, et cela doit faire partie de votre théologie aussi. Pensez à la persévérance de notre cher Seigneur, qui a prié trois fois dans le jardin, appelant continuellement Dieu, puisqu'il a donné une illustration de ceux qui sont venus et qui ont prié avec persévérance. Nous devons aussi prier de cette façon. Donc, négativement, nous ne disons pas « Que ta volonté soit faite » avec un ressentiment amer. Nous ne le disons pas avec une résignation passive. Et nous ne le disons pas avec une sorte de réserve théologique qui classe tout dans ce domaine. En fait, je pense que nous avons terminé la dernière fois en disant que quand nous disons « Que ta volonté soit faite », que ce genre de prière a vraiment une attitude de rébellion, n'est-ce pas? Lorsque nous disons « Que ta volonté soit faite », nous n'allons pas mourir comme Jésus l'a dit dans Luc 18 au verset 1. Nous devons prier en tout temps et ne pas relâcher. Nous ne nous sommes pas évanouis. Nous résistons à certaines choses. Nous nous rebellons contre le monde et sa chute. Nous disons « Ta volonté n'est pas faite dans ce monde. » Satan a trop de pouvoir ici. Ta volonté n'est pas faite dans le cœur des hommes. Ils te tournent le dos. Ta volonté ne se fait pas dans ma vie et dans la vie des autres croyants qui vivent dans la désobéissance. Et nous nous rebellons contre le monde et sa chute. Nous nous rebellons contre le projet du Christ. Nous nous rebellons contre la désobéissance des croyants. David Wells a déclaré, et je pense qu'il a bien parlé, afin d'accepter la vie telle qu'elle est, de l'accepter selon ses propres termes, ce qui signifie reconnaître l'inévitabilité de son fonctionnement. C'est de se soumettre à une vision chrétienne de Dieu. Dieu ne l'accepte pas comme elle est, ou il ne serait pas occupé à la changer. Il ne dirait pas qu'il est venu dans le monde pour détruire celui qui a le pouvoir de faire mourir, s'il voulait tolérer la mort. Il n'y aurait pas un millénaire dans lequel il n'y aura plus de maladie, s'il voulait tolérer la maladie. Il n'effacerait pas toute larme dans l'éternité, s'il voulait tolérer le chagrin. Non, nous n'accepterons pas les choses comme elles sont. Quand nous disons « que ta volonté soit faite », quand nous nous rebellons contre le monde et toute sa détresse, et le chagrin, le péché, la maladie, et toutes les choses qui viennent du péché. Je vous ai dit la semaine dernière que cela ne vient pas de la volonté spécifique de Dieu, bien qu'il permette à certaines épreuves d'arriver, afin que le péché puisse avoir sa place en ceux qui le désirent. Mais ce n'est pas l'expression de sa volonté d'amour pour l'homme. Que ta volonté soit faite, ne l'accepte pas. Je pense que l'illustration classique de ceci est Jésus. Jésus n'est pas venu dans le monde pour aller dans son temple, dans Jean 2. Zacharie a dit qu'il viendrait soudainement à son temple, au début de son ministère. Il entrerait et dirait « Regardez bien ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu !» Et il s'en irait. Il s'est révolté, tout en lui s'est rebellé, il s'était indigné, il était furieux, il était en colère, avec une colère juste. Il a fabriqué un fouet, il a commencé à renverser les tables, il a chassé les personnes, il a commencé à réprimander les personnes. Non seulement il l'a fait une fois dans sa vie, mais il l'a fait deux fois. Les marchands sont sortis rapidement. Ils étaient là pour gagner de l'argent, et ils se sont enfuis sans rien. Vous pouvez imaginer la fureur que Jésus aurait déclenchée. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptait pas le statu quo. Parce qu'il ne tolérait pas la façon de transformer le temple en maison de commerce. Il ne voulait pas tolérer le chagrin, le péché et la maladie non plus. C'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi il a guéri des hommes. C'est pourquoi il est ressuscité des morts pour arrêter les larmes et se glorifier. Il n'a pas accepté le monde comme il était, et vous ne devriez pas le faire, et nous ne devrions pas le faire non plus. Nos prières devraient être « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Maintenant, Jésus n'était pas fataliste, même s'il connaissait la fin dès le début. Cela m'émerveille. Je garde dans mon esprit que Jésus connaissait la fin dès le début et n'a jamais accepté le statu quo. Quand il s'agissait de la manifestation du péché, il a combattu. Il n'a jamais démissionné. Il a cherché la volonté de Dieu. Je dois croire que quand il est allé et s'est entretenu avec le Père, nuit après nuit, dans le jardin, il a vraiment cru que cela ferait du bien. Il a vraiment cru qu'il y avait un avantage. Je pense que nous nous sentons à l'aise dans notre société, parce que le statu quo tel qu'il est assez confortable pour nous, n'est-ce pas? Maintenant, cela devient moins confortable en Amérique. Et cela peut devenir de moins en moins confortable. Mais depuis longtemps, nous avons été très à l'aise, et je pense que, dans de nombreux cas, cela a vraiment eu un effet terrible et dramatique sur la vie de prière de l'Église. L'autre jour, environ 25 pasteurs coréens ont marché dans le hall d'un immeuble de bureau, et je rentrais après avoir enseigné une classe de prédication au séminaire. Je suis entré, et j'ai vu ces 25 pasteurs coréens assis. Un homme s'approcha de moi, « Monsieur Ko, » et il dit, « Nous voulons vous parler. J'étais un peu surpris. Ils veulent que je vienne en Corée pour faire une conférence pour les pasteurs. Mais ils ont dit, d'abord, nous voulons vous poser quelques questions. J'ai dit, d'accord, allez-y. » Alors, ils se tenaient près de moi et m'ont dit, « Comment faites-vous grandir une église ?» J'ai dit, « Je ne fais pas grandir l'église. » Je leur expliquais que nous croyons dans l'enseignement de la parole de Dieu sans faire une promotion quelconque, et nous laissons Dieu faire grandir sa propre église. Je lui ai dit qu'une fois un journaliste m'a dit « N'avez-vous pas un grand désir de construire l'Église ?» J'ai dit non, je ne l'ai pas, parce que le Christ a dit qu'il construirait l'Église et que je ferais mieux de ne pas concourir avec lui. Donc, nous faisons partie de ce qu'il fait, vous voyez. Ils disaient tous « Oh oui, oh, amen, amen, ils aiment ça. » Alors ils m'ont dit « Combien d'heures étudiez-vous » J'ai dit « J'étudie. » et je leur ai donné les heures tous les jours, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, à étudier la parole de Dieu. Ensuite, un autre m'a mentionné. « Votre peuple, étudie-t-il ? » J'ai dit « J'espère qu'ils étudient. » Ensuite, un homme m'a dit « Combien d'heures priez-vous tous les jours ?» Il m'a eu. « Vous voyez ?» J'ai répondu « Vos hommes, ils prient pendant plusieurs heures. » J'ai dit « Nous avons une maladie en Amérique. On l'appelle le confort. » Le peuple coréen a subi beaucoup d'empiètement avec le communisme, avec les terribles désastres qui sont venus lorsque d'autres nations sont venues et les ont tués et ont abattu des chrétiens. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme qui m'a dit que les Japonais sont venus et ont coupé les pouces de son père, qui était un ancien dans l'église. Mais vous voyez qu'ils ont été placés dans un endroit où ils avaient besoin de prier. Je pense que nous sommes très éloignés de cela dans notre propre culture, que parfois je prie pour que ces choses viennent nous conduire à cet endroit, non pas parce que je pense que Dieu a besoin de nous pour prier, mais parce que je pense qu'il faut que nous soyons plus dépendants de lui. Je pensais à cela, et je l'ai mentionné la semaine dernière. Je pensais, pourquoi prions-nous si peu pour l'Église ? L'Église de la grâce a des problèmes. Nous avons traversé beaucoup de choses ces derniers temps, beaucoup de chagrins. Nous avons des problèmes. Il me semble que nous ne prions pas vraiment comme nous le devrions pour l'Église. Quelqu'un pourrait dire, ce dont nous avons besoin, les hommes l'ont même dit. Nous avons besoin d'un séminaire de prière. Je dis, ce n'est pas une mauvaise technique. Ce n'est pas la technique. Nous disons, nous devons leur apprendre ce que dit la Bible. Je ne pense même pas que ce soit cela. Je pense que nous savons ce que dit la Bible. Les personnes ont peu de volonté. Non parce qu'ils se sont vraiment tournés vers certaines choses. C'est un manque de préoccupation. Je ne pense même pas cela. Est-ce que vous savez à quoi je pense ? Je pense que nous ne prions pas assez, parce que nous ne croyons pas vraiment que cela importe. Je ne pense pas que nous pensons que cela va changer quoi que ce soit. Le fait est que c'est parce que nous le percevons comme faisant une différence dans nos circonstances, plutôt que de faire une différence en nous. Vous voyez ? Le but de la prière n'est pas de changer mes circonstances, autant que de changer la façon dont je me comporte devant elles. Dans mes prières, je me rapproche de Dieu. Et je l'adore, comme je l'ai dit. Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite. Je suis appelé à être conforme à sa personne bénie, et donc peu importe ce que sont mes circonstances. Elles deviennent différentes parce que mon attitude est différente. Je crois que même au-delà de ces choses, Dieu change les circonstances. J'ai prié pour des personnes et elles ont été sauvées. Avez-vous eu cette expérience ? Dieu choisit non seulement ceux qu'il veut sauver, mais il choisit les méthodes qu'il utilise. Parfois, nous faisons partie de cette méthode. Jacques 5, au verset 16, dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Écoutez, l'impotence dans la prière nous conduit, malgré nous, à faire une trêve avec ce qui ne va pas. Nous perdons notre colère. Nous perdons notre passion. Nous perdons notre indignation. Nous n'agressons pas le trône de Dieu, comme le disait Beiderwolf. Dieu aime avoir un héros, avec une foi héroïque. Nous ne tambourinons pas à la porte. Nous avons vu la dernière fois que la prière devait être une rébellion. Maintenant, lorsque nous disons « Que ta volonté soit faite », dans un sens positif, que voulons-nous dire ? Nous avons parlé du côté négatif la semaine dernière. Qu'en est-il du côté positif ? Que voulons-nous dire vraiment lorsque nous disons « Que ta volonté soit faite » ? Permettez-moi de partager avec vous qu'il existe 3 termes distinctifs de la volonté de Dieu qui, je pense, vous aideront à comprendre cela. Lorsque vous dites « Que ta volonté soit faite », que dites-vous ? Premièrement, c'est ce que j'appelle la volonté et le but de Dieu. Soit dit en passant, ce sont mes termes, et j'ai simplement tenté de trouver des perches que vous pourriez saisir pour voir certaines distinctions. Parce que lorsque nous disons la volonté de Dieu, la couverture est grande. Et puis les hommes disent « Sa volonté permissive et sa volonté directive, etc. » Voyons si nous pouvons obtenir des termes pour nous aider à saisir ce que nous voulons dire. La première perche est la volonté de Dieu. J'aime utiliser les mots bibliques. La volonté de Dieu. Maintenant, je veux dire l'immensité de la volonté exhaustive et tolérante de Dieu. C'est la réalisation de tout. C'est la volonté qui incarne absolument toute la terre, tout le ciel, tout l'enfer. Et dans tout cela, sa volonté est faite. En d'autres termes, dans ce concept massif de l'objectif de sa volonté, qui englobe le pouvoir du péché, et celui du péché en cours d'exécution. la consommation des âges, l'établissement du royaume, l'état éternel, et tout ce qui englobe du ciel à l'enfer, et tout ce qui se trouve entre les deux. C'est une compréhension massive de la volonté de Dieu. Par exemple, Jérémie 51, verset 29, dit « Car le dessein de l'Éternel s'accomplit. Cela ne fait aucun doute que cela se fait. Cela ne fait aucun doute que le plan des âges est en train de s'accomplir. Cela ne fait aucun doute que Dieu accomplit ses buts ultimes. » Par exemple, dans le chapitre 14 d'Ésaïe, il y a quelques versets qui sont des versets très essentiels pour comprendre le concept de la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 14, au verset 24, il dit « L'Éternel des armées l'a juré en disant oui. » Écoutez bien la suite. Elle est chargée de riches significations théologiques. Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ce que Dieu pense se produira. Ce que Dieu décide s'accomplira. Verset 26. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? En d'autres termes, Dieu a ses buts massifs qui se produisent. Par exemple, ce n'est pas la volonté directe de Dieu que les hommes soient malades, mais c'est son but de permettre à cette maladie d'accomplir ses propres fins. Ce n'est pas la directive de Dieu que cette mort entre dans le flux humain et que les hommes meurent, mais dans son but général qu'il utilise la mort pour sa fin et sa propre gloire. C'est le terme le plus large, la volonté ou le but de Dieu. Nous savons que toutes ces choses fonctionnent ensemble pour de bon, pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son quoi, objectif. En d'autres termes, Dieu ne veut pas le mal. Dieu prend les choses qui se passent dans nos vies, les rassemble pour de bon, parce que c'est son but. C'est le concept qui englobe tout. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 9, « Je veux que vous réfléchissiez avec moi maintenant, car cela vous aidera à avoir certaines catégories. » Dans Éphésiens 1, verset 9, il est écrit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » En d'autres termes, il parle du salut, de l'incroyable pardon, de la rédemption qui fait partie du grand but de Dieu. Ensuite, il parle du juif et des païens, comme étant l'un d'eux, la dispensation de la plénitude du temps, réunis ensemble, ne faisant qu'un en Christ, dans le ciel et sur la terre, qui est, selon le but de celui qui travaille toutes choses, d'après le conseil de sa propre volonté, le grand but de Dieu pour un peuple racheté, pour une église unifiée, pour un corps de saints pour l'éternité. C'est son but. Il s'agit donc du plan éternel. Gardez cela à l'esprit, la volonté de Dieu. Maintenant vous dites, John, devons-nous prier dans ce sens? Que ta volonté soit faite? Oui. Comment? Permettez-moi de vous donner une illustration. Dans Apocalypse 22, verset 7, Jésus dit « Et voici, je viens bientôt. » Au verset 12, Jésus dit « Voici, je viens bientôt. » Au verset 20, Jésus dit « Oui, je viens bientôt. » C'est son but. C'est la réalisation de son plan éternel. Vous savez ce qu'est la réponse de Jean, l'apôtre, dans le verset final. « Viens qui ? Viens Seigneur Jésus. » Comment prions-nous en accord avec sa volonté ? En s'engageant joyeusement dans l'anticipation de l'accomplissement de ses propres fins divines. Vous voyez, c'est une excellente façon de prier. Ô mon Dieu, je sais qu'un jour tu vas appeler ton Église, et tu ramèneras Jésus-Christ, pour nous enlever, pour que nous soyons avec lui. Ainsi soit-il, Seigneur. Cela se produira. C'est inévitable. Il l'a pensé, il l'a proposé. C'est dans le plan. Cela se passera. Pourtant, nous prions dans le sens où nous nous joignons ensemble à une joyeuse anticipation de cette grandeur. Êtes-vous fatigué de vivre dans la chair? N'êtes-vous jamais fatigué de votre corps physique? Êtes-vous fatigué de l'angoisse de ce monde? Est-ce que dans votre cœur, vous languissez pour le jour où vous connaîtrez la liberté en tant que fils de Dieu, lorsque vous serez comme Christ, et que vous pourrez habiter avec lui une gloire éternelle, de toutes ces choses que cette terre nous apporte? Moi, si. Donc, parfois ma prière va être « Seigneur, je sais que tu vas le faire, et je veux juste te faire savoir que tu obtiens mon vote. Vas-y, fais-le, le plus vite possible. » C'est prier selon sa volonté et son but. Deuxièmement, Dieu a une volonté que j'appellerai la volonté de désir. Maintenant, plutôt que d'avoir un plan global, nous nous réduisons au désir d'un cœur. Vous êtes comme cela. Vous avez un plan général, Vous savez, vous travaillez un plan pour votre vie et votre carrière. Vous planifiez tout. Et puis tout cela se réduit à ces désirs personnels que vous avez dans ce domaine. Tout ce qui se passe dans votre vie n'est pas un désir personnel. Mais d'une certaine manière, vous essayez de l'intégrer au plan, afin de rester sur la bonne voie. C'est ainsi avec Dieu. Il a une volonté de désir. Vous savez quelque chose? Cela n'est pas toujours fait. À ce stade, Dieu est en quelque sorte insatisfait. Je déteste utiliser ce terme, parce que c'est un terme humain, et ce n'est pas particulièrement vrai pour parler de Dieu. Mais nous essayons d'utiliser une déclaration anthropomorphe pour vous donner une compréhension. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu veut qui ne semblent pas se produire. Ce sont ses désirs, mais les hommes les rejettent. Par exemple, Jésus souhaitait que Jérusalem soit sauvée, dans Matthieu, et dans Luc 13, au verset 34, il a dit « Jérusalem, Jérusalem, je veux te rassembler, mais tu ne le veux pas. » Et dans Jean 5, au verset 40, il dit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et Jésus pleura. Il a pleuré. De retour dans le verset 13 de Jérémie, « Vous savez que Dieu dit « Je vais vous juger, et quand je dois vous juger, mes yeux se déchireront avec des larmes. » Vous voyez les désirs de Dieu, selon Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je crois que c'est le désir du cœur de Dieu. Et pourtant, il y en aura beaucoup qui disent « Seigneur, Seigneur !» Et il répondra « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je crois qu'il désire que tous soient sauvés, mais je ne crois pas que tous le seront. » Voilà le mystère, mes amis. Vous avez un Dieu absolument souverain, et pourtant vous avez le choix. Je ne comprends pas comment cela se rapproche. Je crois que le désir de Dieu est que les hommes soient sauvés. Je crois que Jésus a même pleuré pour des hommes qu'il savait ne seraient jamais rachetés. Sinon, pourquoi a-t-il pleuré? Ses larmes montrent son désir. Il a donc une volonté de désir. Il y a une troisième volonté. Je l'appelle la volonté de commandement. Je crois que cela est en relation avec des chrétiens. Je crois que la volonté du but est liée à l'univers entier et prend tout en compte. Et c'est là que vous avez les épreuves et les souffrances, les chagrins et les maladies qui se sont mélangés ensemble pour une fin heureuse vers le but éternel de Dieu et dans cette grande volonté. Mais cela englobe l'univers. Ensuite, j'ai le concept de sa volonté de désir et j'aime m'en servir pour décrire les non-croyants. Je pense que la volonté de désir, c'est cette envie dans le cœur de Dieu que l'Évangile soit connu dans le monde. C'est la volonté du désir. Maintenant, nous arrivons à la volonté de commandement. Et je pense que c'est pour les chrétiens. Car cela ne fait aucun bien à Dieu de commander aux non-croyants de faire sa volonté, parce qu'ils n'ont aucun don, n'est-ce pas? La volonté de commandement, c'est le désir ardent du cœur de Dieu que nous, qui sommes ses enfants, lui obéissent complètement et immédiatement avec un cœur volontaire. Alors, écoutez, bien-aimé, quand je dis dans ma prière « Que ta volonté soit faite », que dis-je? Je dis « Ô Dieu, accomplis ton but dans le monde. Ô Dieu, amène-le à la consommation. Dieu, prends toute lutte et épreuve dans ma vie, toutes les douleurs et toutes les angoisses, toutes les souffrances et toutes les maladies, tous les morts et inverses, les choses qui sont les conséquences du péché, et adapte-les à ton plan éternel, par ton esprit infini. Quand je dis « Que ta volonté soit faite », je dis aussi « Ô Dieu, il y a des personnes dans ma vie et des personnes autour de ce globe qui ne te connaissent pas. Je prie pour que l'Évangile pénètre dans leur cœur. C'est sa volonté de désir. » Alors, troisièmement, je dois dire « Seigneur, au sujet de ta volonté de commandement, je prie d'être obéissant. Et je prends ce commandement pour moi. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y a trois façons d'attirer le royaume. Numéro 1, par la conversion, que ton règne vienne. Quand Christ règne dans un cœur. Numéro 2, par l'engagement, quand un croyant vit selon la justice, la paix et la joie, dans l'Esprit Saint, le royaume entre pleinement dans sa vie. Troisièmement, lors de sa seconde venue, le royaume viendra sur terre. Je vois ces mêmes trois choses. Sa volonté embrase la fin ultime, la reprise et la mise en place d'un royaume éternel. Sa volonté de désir englobe la conversion, et sa volonté de commandement, d'obéissance, embrasse l'idée d'engagement dans ma vie. Comme Pierre l'a si bien dit avec Jean dans Actes 5 au verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme Paul l'a dit dans Romains 6. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Nous devons être obéissants. Dans la magnificence du psaume 119, j'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Le cœur de l'obéissance. Alors que nous prions, que ta volonté soit faite, nous embrassons la conversion, l'engagement et son retour. Mais vous savez qu'il est difficile de prier de cette façon. Le saviez-vous? Il est difficile de se préoccuper de Dieu dans vos prières. Et il y a une raison fondamentale à cela. Parce que le péché majeur du cœur humain, c'est quoi? La fierté. C'était le premier péché. Lucifer, Ésaïe 14, dit 5 fois « Que je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. » Et c'était la chute de Lucifer. Pour la première fois dans l'histoire de Dieu, il y avait 2 volontés. Cela s'est multiplié à partir de ce moment. Et maintenant, il y a plusieurs milliards d'âmes sur terre, et encore une seule au paradis. C'était 1 contre 1. Maintenant, c'est plusieurs milliards contre 1. Savez-vous quelque chose? Une seule de ces volontés est juste. Toutes les autres sont corrompues, toutes les autres. Cela n'inclut même pas tous les anges déchus. Il n'y a qu'une seule volonté. Et bien aimé, elle est faite au paradis. Elle doit être faite sur la terre. Mais la fierté s'y oppose. Toujours. Vous dites, eh bien, comment traitez-vous cela? Comment supprimer la fierté? Je suppose que nous devons regarder à Romains 12, n'est-ce pas? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'abnégation, l'humilité, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, jusqu'à ce que vous mettiez votre vie sur l'autel, jusqu'à ce que vous soyez un sacrifice vivant, jusqu'à ce que votre volonté soit morte, la volonté de Dieu ne peut pas se manifester. Vous dites, qu'est-ce qu'un sacrifice vivant? C'est très différent de ce que vous pourriez penser. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham emmenait Isaac, attaché dans son dos, jusqu'au mont Moria. Tout le long du chemin, Abraham devait se dire, « Dieu, c'est très étrange. Tu m'as dit de monter là-haut et de tuer mon fils sur l'autel. Et pourtant, mon fils est l'accomplissement éthique de ton alliance. Tu me dis de le coucher sur un autel et de le tuer. Cela n'a pas de sens. Mais vous savez que c'est l'une des plus grandes illustrations d'un sacrifice vivant dans le monde, parce que Abraham est allé jusque là-bas, a descendu Isaac, l'a attelé, a soulevé le couteau, était prêt à le plonger dans son cœur. S'il avait fait cela, Isaac aurait été un sacrifice mort, et Abraham aurait été un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce qu'Abraham aurait crucifié tous ses propres rêves, tous ses propres espoirs, toutes ses ambitions, tous ses propres objectifs, tous ses désirs. Il serait mort lui-même en obéissance à Dieu. La question n'est pas « pouvez-vous mourir pour le Christ ?» La question est « pouvez-vous vivre de manière désintéressée pour lui ?» C'est la question. Si vous le pouvez, vous pouvez connaître sa bonne volonté. Donc la chose qui vous empêche de prier la volonté de Dieu est notre propre volonté. Lorsque vous apprenez à prier comme vous devez prier conformément à sa volonté, vous verrez que vous allez changer radicalement. La prière est alors une grâce qui sanctifie. Cela nous change. Nous ne prions pas pour manipuler Dieu. Nous ne demandons pas à Dieu de faire ce que nous voulons. Nous ne prions pas avec des incantations et des démonstrations publiques et des répétitions vaines pour tenter de faire un spectacle. Nous entrons dans la présence de Dieu. Nous voulons sanctifier son nom, attirer son royaume et accomplir sa volonté. Car en ce sens, nous entrons en conformité avec sa personne bénie. Je suppose que je pourrais résumer tout cela et dire ceci. La prière est un moyen de sanctification progressive. John Hanna dit ceci et c'est génial. La fin de la prière n'est pas tant des réponses tangibles qu'une vie approfondie de dépendance. N'est-ce pas génial? C'est tout. Toutes les réponses viendront, mais la dépendance est le problème. L'appel à la prière est un appel à l'amour, à la soumission et à l'obéissance. La venue de la communion, douce, intime et intense de l'âme avec le Créateur infini. Alors nous devons prier. Que ta volonté soit faite sur la terre. Et en passant, la terre c'est nous, n'est-ce pas? C'est nous. Puis j'illustrais cela par Philippe Keller. Une illustration graphique. Il a vécu au Pakistan, quand il était un petit garçon, et je terminerai avec cela. Mais je veux que vous la saisissiez. C'est puissant. Philippe Keller a vécu au Pakistan quand il était petit. Il lisait dans Jérémie 18 au verset 2. Et il a lu un verset qui disait « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Il était curieux à propos du potier et des leçons qu'il devait enseigner. Il est donc descendu dans la maison du potier dans la ville où il habitait. C'est ce qu'il a écrit. Dans la sincérité, j'ai demandé à l'ancien maître artisan de me montrer chaque étape de la création d'un chef-d'œuvre. Sur ses étagères, il y avait des gobelets brillants, des vases charmants et des bols exquis de beauté à couper le souffle. Puis, pointant un doigt osseux vers moi, il a ouvert la voie vers un petit abri sombre et fermé au fond de son magasin. Quand il ouvrit sa porte déchue, une puissante puanteur de matière en décomposition m'engloutit. Pendant un moment, je me suis éloigné du bord de la fosse obscure sur le sol du hangar. « C'est là que commence le travail », a-t-il déclaré. À genoux, à côté du trou noir et nauséabond, avec son long bras mince, il tendit la main dans l'obscurité. Ses doigts minces et compétents cherchaient au milieu de l'argile pour trouver un fragment de matériau parfaitement adapté à sa tâche. « J'ajoute une espèce d'herbe spéciale à la boue », a-t-il souligné. Et alors que cela pourrit et se décompose, son contenu organique augmente la qualité colloïdale de l'argile. Et cela colle mieux. Finalement, ses mains sages ont apporté un morceau de boue sombre et malodorante de l'horrible fosse, où l'argile avait été piétinée et mélangée par ses pieds durs et osseux. Avec un énorme impact, le premier verset du psaume 40 est venu à mon cœur. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Aussi bien que le potier avait choisi l'argile, alors Dieu m'avait choisi. Alors la grande dalle de granit coupée de la roche rugueuse des hautes montagnes hindoues couches, derrière sa maison, a commencé à tourbillonner tranquillement. Cela fonctionnait avec une pédale brute, appuyée par ses pieds, un peu, comme une machine à coudre antique. Au fur et à mesure que la pierre s'accumulait, je me souviens d'un passage de Jérémie 18 au verset 3. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Ce qui m'a le plus marqué à ce stade, c'est que de chaque côté du tabouret du potier, il y avait deux bassins d'eau. Ensuite, il a continué à raconter que tout le temps que la roue tournait avec l'argile, il plongeait ses mains dans l'eau, puis il moulait l'argile. Ensuite, il les trempait dans l'eau et moulait l'argile. Et il ne pourrait jamais mouler l'argile sans eau, car elle collerait à ses mains, et cela ruinerait sa production. Ses mains devaient toujours être humides. Il a dit que c'était fascinant de voir à quelle vitesse l'argile répondait à la pression appliquée à travers ses mains humidifiées. Silencieusement, un gobelet gracieux commençait à prendre forme entre ses mains. L'eau était le moyen par lequel la volonté et les souhaits du maître artisan se transmettaient à l'argile. Sa volonté était effectivement faite dans la terre à travers l'eau. Immédiatement, il dit « J'ai pensé à l'eau de la parole, qui est l'agence de Dieu pour faire sa volonté sur terre. » Quand Dieu touche ma vie, il me touche avec sa parole. C'est l'eau de la parole qui exprime la volonté du Maître et trouve son accomplissement en façonnant l'homme de son choix. Soudainement, à son étonnement, il a remarqué l'arrêt de la roue. Doucement, l'homme a sorti un morceau de pierre, puis il a recommencé à faire tourner la roue et à l'arrêter de nouveau et à reprendre une grosse pierre. Vous remarquez maintenant que, avec la tendresse de sa main, il pouvait ressentir tous les points durs, chaque caillou, chaque petit grain de sable. Les deux qu'il avait retirés étaient trop grands. Le gobelet était gâché. Alors il l'a écrasé entre ses mains. « Keller lui dit. « Oh, que c'est triste. Que va-t-il arriver à cela ?» Il a dit. « Je vais le transformer en un bol. » Il a dit. « Ce ne sera jamais une tasse. » Il a dit. « Non, c'est trop marqué. » Keller dit. « Et j'ai pensé à nouveau à Jérémie 18, au verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. » Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Il dit « Rarement, une leçon est venue à la maison avec autant de clarté et de force. Pourquoi ce chef-d'œuvre rare et magnifique a-t-il été gâché dans les mains du maître? Parce qu'il a rencontré de la résistance. C'était un coup de tonnerre dans mon esprit. Pourquoi la volonté de mon père et son intention de transformer des personnes vraiment belles a-t-elle échoué à plusieurs reprises. En raison de notre résistance, en raison de notre dureté, en dépit de ses meilleurs efforts et de son infinie patience avec nous. En plus de l'eau de la parole qui nous a été appliquée, nous finissons avec rien d'autre qu'un bol. La question délictueuse et saisissante que je devais me poser dans l'humble environnement de ce hangar de poterie simple était ceci. Est-ce que je vais être un morceau de porcelaine fine ou un bol? Ma vie sera-t-elle un vase magnifique pour contenir le bon vin de la vie même de Dieu, dont d'autres peuvent boire et être rafraîchis? Ou est-ce que je vais être un bol brut dans lequel les passants mangeront brièvement, puis continueront leur chemin et l'oublieront? C'était l'un des moments les plus solennels de toute ma vie, et j'ai prié. Père, que ta volonté soit faite sur la terre, en terre cuite, en moi comme au ciel. Et vous, Keller, continue à dire que lorsque le potier finit son travail, et lorsque la roue tourne encore, il prend un long fil, et il le tire par le bas et le coupe, et il dit « J'ai cru être séparé pour les bonnes œuvres. » Ensuite, le potier le prend et le place dans un four, et par la contrainte de la chaleur, il termine finalement l'objet. Bien-aimé, Dieu veut faire sa volonté en vous. Dieu veut vous transformer dans ce magnifique vase. Mais parce que vous résistez, vous devenez un simple bol. Au lieu d'être utilisé pour le bon vin, des grands buts de Dieu, vous êtes quelque chose que les hommes tapotent avec les doigts et passent leur chemin. La clé de cela, est-ce que vous le laisserez faire sa volonté dans l'argile de la terre, comme cela se fait au paradis? C'est le cœur de vos prières. Prions. Père, tu as été bon pour nous tout au long de notre vie, puisque nous connaissons le Christ. Nous avons reçu tous les bons et gracieux cadeaux et ce matin, tu en as donné un autre, le privilège de t'adorer et de partager ensemble ta précieuse vérité. Peut-on accepter ce bon cadeau et ne pas en abuser? Ô Dieu, conduis-nous au lieu de la prière, pour que nous puissions chercher ton retour, afin que nous puissions voir la conversion dans les cœurs des perdus, l'accomplissement de ta volonté de désir, et que nous puissions accomplir ta volonté d'obéissance, ta volonté de commandement, alors que nous entendons et obéissons à ta précieuse parole. Afin que nous ne soyons pas résistants à tes mains, à l'eau de la parole, qui nous forme pour que nous soyons utiles. Fais de nous des navires adaptés à l'utilisation du Maître. Au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.